hommes m'ont attaqué sans sommation. Et où est-ce donc ? Le charpentier secoua la tête. On croirait une provocation. Ils le retiennent à la commanderie Saint-Marc, qui est une ancienne maison templière au milieu des bois, à l'est de la ville. Décidément, cela devient une habitude, maugréa Andreas. Que voulez-vous dire ? J'ai moi-même été enfermé à la prison du Temple à Paris. Les biens de mon ordre sont de plus en plus souvent détournés de leur fonction originelle, se lamenta Colin. Andreas acquiesça, encore qu'il ne fût pas certain, au fond, d'avoir quelque sympathie pour la dite originelle fonction. « Il faut que j'aille libérer Robin, » affirma-t-il d'un air grave. « L'entrée est trop bien gardée, vous n'avez aucune chance. » Et pourtant, il faudra bien que je le fasse. Vous n'y parviendrez pas par la force. Non pas, mais par la ruse, peut-être. Il y aurait un moyen, murmura l'ancien templier. Lequel ? Je ne connais pas bien la commanderie Saint-Marc, car j'étais moi-même à la maison de Rouvray-Sainte-Croix, au nord d'ici. Mais on raconte qu'il existe un souterrain qui relie la crypte Saint-Aignan à la commanderie. Et... où débouche-t-il, ce souterrain ? Au cœur même de la commanderie ? Je n'en ai aucune idée, mais en toute logique, il a été creusé pour permettre aux occupants des lieux de s'enfuir en cas de siège, s'ils étaient acculés. Et donc, il devrait se trouver dans la pièce la plus éloignée de l'entrée principale. Vous pensez alors que j'aurai une chance d'entrer discrètement à l'intérieur des murs ? Je ne suis certes pas un homme aguerri, mais je sais être discret. Cela me paraît fort périlleux. Toutefois, Humbert n'est pas venu avec beaucoup d'hommes. Et il est probable que cela ne surveille que l'entrée principale, ce qui serait en votre faveur. Néanmoins, comme vous le dites, vous n'êtes pas un homme aguerri, monsieur Saint-Loup. Vous devriez peut-être attendre que je sois rétabli, pour venir vous prêter main forte. Non. Vous connaissez Humbert. Vous devinez comme moi ce qu'il est en train de faire à mon apprenti. Je ne peux pas attendre. Colin acquiesça d'un air désolé. La crypte Saint-Aignan est à l'intérieur des remparts. Vous allez d'abord devoir trouver un moyen d'entrer dans la ville. Cela ne sera malheureusement pas le plus difficile. Andreas se tourna alors vers l'épouse du charpentier. Madame, croyez-vous pouvoir me confectionner un habit de moine ? Mon mari a gardé la bure qu'il portait lors de son entrée au temple. Je devrais pouvoir vous arranger quelque chose.
Parfait.
Que comptez-vous faire ?
Avec mon crâne chauve, je ferai un excellent cénobite.
Chapitre 82. Ce jour-là, les bergers proposèrent à Alice de sortir les bêtes toute seule. N'osant point décevoir ses hôtes, la jeune fille accepta, mais en ouvrant la bergerie pour libérer chèvres et moutons, le bâton maintenu fermement dans son petit poing serré, elle n'en ramenait pas large. Heureusement, les bêtes suivaient, par la force de l'habitude, le trajet qu'elles effectuaient chaque jour jusqu'au plateau. Imitant Marie, criant des « derrière, derrière !» aux chiens, levant son bâton de ci, de là, Alice parvint tant bien que mal à guider le troupeau vers le point culminant de la colline de Caso, où elle le laissa paître l'herbe verte et grasse qui, au mois de mars, colorait toute la garrigue. Le ciel était d'un bleu sans fêlure et le soleil au zénith. Au cœur du plateau, chèvres et moutons se nourrissaient avec frénésie pendant que les chiens, étendus sur le flanc, langue pendante, les surveillaient de loin, prêts à bondir au moindre écart. Rassurée, Alice partit s'asseoir au pied d'un olivier. Puis, sans vraiment y penser, elle ramassa une longue et solide branche et prit un couteau dans le sac de berger que Luc lui avait confié. Et alors, comme poussée par l'instinct, elle se mit à tailler le bois. Le poignet souple, sa main droite se promena le long de la branche, imprimant des gestes précis, comme mille fois répétés. Et petit à petit, des formes apparurent sous les coups de lame. Certes, il ne s'agissait pas d'une sculpture réfléchie, de figures spécifiques, mais il y avait dans cet enchevêtrement de courbes, de feuillages et d'ornements, une grâce naïve et harmonieuse à la fois, si bien que quand elle eut terminé, Alice s'étonna elle-même du résultat, d'autant qu'elle n'avait jamais fait cela auparavant. La jeune fille sourit. En sculptant le bois, elle avait éprouvé un plaisir inconnu, un plaisir qu'elle ne pouvait nommer, mais que le lecteur aurait